L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, avec Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui en Algérie, les manifestations pour réclamer le départ du président Bouteflika, mobilisation dans la rue et on le verra aussi sur les réseaux sociaux. Au Canada, le gouvernement Trudeau empêtré chaque semaine un peu plus dans l'affaire SNC-Lavalin. En France, la condamnation d'un cardinal à 6 mois de prison avec sursis, reconnu coupable de non dénonciation d'abus sexuels chez des mineurs. En Belgique, après 2 mois de procès, le français Medine Mouche a été reconnu coupable d'avoir commis l'attentat qui a fait 4 morts dans le musée juif de Bruxelles en 2014. Et puis en Suisse, un grand piratage informatique, 3 millions de comptes électroniques touchés, dont ceux de plusieurs ministres et autres cadres de l'armée. Voilà pour le menu de l'actualité francophone. Bienvenue à tous. On commence avec la statue de la discorde, c'est celle de Thomas Sankara, le héros de la révolution au Burkina Faso, Charlotte Hydrac.
Oui, à peine inaugurée en grande pompe à Ouagadougou le week-end dernier, cette statue géante, 5 mètres de haut, est repartie aussi sec à l'atelier. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle ne ressemble pas à l'original. L'ancien président burkinabé, icône du panafricanisme, est méconnaissable. Certains sont allés jusqu'à dénoncer un attentat à la mémoire. Le comité international du mémorial Thomas Sankara, à l'initiative du projet, a dû s'excuser. Une version 2 est en cours.
La nouvelle vie du franco-libanais Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault et Nissan, est sorti de sa prison japonaise après 108 jours de détention. La justice japonaise lui reproche toujours des mouvements d'argent frauduleux. Après avoir payé une caution de près de 8 millions d'euros, il vit désormais en résidence surveillée au Japon, très surveillée même, dans un logement sous vidéosurveillance permanente. Ses passeports lui ont été confisqués. Il n'a aucun accès à Internet, sauf chez son avocat. Carlos Ghosn, que l'on dit très fatigué, devrait se refaire une santé pour clamer son innocence. Il le fera lors d'une conférence de presse, probablement offensive, dans les jours prochains. Au Canada, Sébastien Desrosiers, votre personnalité de la semaine s'appelle Michael Kovrig. C'est un Canadien détenu en Chine depuis 3 mois.
Oui, à ce moment-là, au début du mois de décembre, la numéro 2 du géant chinois des télécommunications Huawei venait d'être arrêtée en sol canadien. Elle s'appelle Meng Wanzhou. Elle est toujours menacée d'extradition vers les États-Unis pour avoir contourné des sanctions. Et donc, quelques jours après son arrestation en décembre, Michael Kovrig a lui aussi été arrêté à Pékin sans que les motifs ne soient précisés. Eh bien, cette semaine, la Chine a formellement accusé M. Kovrig de vol de secret d'État et d'actes d'espionnage. Il risque une lourde peine de prison. Il est privé d'un avocat, interrogé tous les jours. Ottawa dénonce une forme de riposte, une détention arbitraire. La crise entre les deux pays s'enlise.
En Belgique, Nathalie Devic, des journalistes de Presse écrite sont partis en grève cette semaine.
Pour protester contre le licenciement ciblé, dénoncent-ils, de 3 des leurs après qu'ils aient révélé les démêlés judiciaires du principal actionnaire de leur groupe de presse. La direction des éditions de l'Avenir a répliqué en coupant tous les accès des journalistes à leurs outils, Internet, réseaux sociaux, bloquant ainsi la parution des journaux pendant plusieurs jours. Il s'agit de la pire des censures, a déclaré le secrétaire de la Fédération européenne des journalistes, Ricardo Gutiérrez. En tout cas, c'est du jamais vu en Belgique, où la presse était toujours, jusqu'ici, censée pouvoir travailler en toute indépendance.
En Suisse, Joël Marchetti, hommage cette semaine à Jean Starobinski.
Jean Starobinski, le grand critique littéraire suisse, également médecin et auteur de plusieurs livres devenus des classiques de la critique contemporaine, est décédé cette semaine à l'âge de 98 ans. Spécialiste du XVIIIe siècle, il est connu notamment pour son essai Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle, plusieurs fois réédité, ainsi que par des ouvrages empruntant au domaine médico-psychiatrique comme Histoire de la médecine ou Histoire du traitement de la mélancolie. Des origines à 1900. Les hommages ont afflué. Je vous cite la réaction sur Twitter du président français Emmanuel Macron. Citoyen suisse, esprit universel, Jean Starobinski nous aura fait entrer plus avant dans la littérature et les arts et aura servi la culture française. C'est là un représentant éminent de l'Europe, de la culture qui nous quitte, celle qui nous rassemble et nous rend plus humains.
En Algérie, la pression continue donc pour s'opposer à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Mobilisation dans la rue et aussi sur les réseaux sociaux, Charlotte Hydrac.
Oui, les réseaux sociaux relaient des appels à manifester depuis 2 semaines, un espace de parole, de moquerie, de colère aussi. La candidature du chef de l'État a notamment provoqué le retour sur la toile de youtubeurs très populaires en Algérie comme Anestina.
En 2019, nkhat bak nqoul halak direct bla ma nkhaf. Monsieur le président.
No, you can't.
Je m'adresse à toi, je te le dis direct, sans peur, monsieur le président. No, you can't. Cette vidéo dépasse les 2,5 millions de vues sur YouTube. Les Algériens qui ont aussi lancé une opération sur les réseaux à destination de l'hôpital universitaire de Genève, en Suisse, où le président Bouteflika serait hospitalisé. Dans des vidéos, les internautes se filment en train d'appeler le standard, littéralement pris d'assaut. L'un réclame le paiement de pizza, soi-disant livré au chef de l'État. D'autres demandent naïvement des nouvelles.
Allô, oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Madame, on a entendu aujourd'hui que monsieur Bouteflika, il est là-bas, chez vous, à l'hôpital de Genève, c'est ça?
Alors, dans ma liste, dans le répertoire des patients que je peux consulter, le nom de monsieur Bouteflika ne figure pas, monsieur.
Mais madame, dis-lui, il peut retourner. C'est bon, c'est possible.
Et c'est sur Facebook que le centre hospitalier a répondu. Il rappelle, déontologie oblige, qu'il ne délivre en aucun cas des informations sur l'état de santé de ses patients, quels qu'ils soient.
En Belgique, le procès de l'attentat du musée juif de Bruxelles, le premier attribué aux djihadistes de l'État islamique en Europe, ce procès a donc livré son verdict, Nathalie Devic.
Et les Français, Medine Mouche et Nasser Bendrer, ont tous les deux été reconnus coupables d'assassinats commis dans un contexte terroriste. L'un auteur, l'autre co-auteur de la fusillade qui a coûté la vie à 4 personnes. C'était en mai 2014. Le jury populaire a balayé les thèses négationnistes et complotistes de la défense pour qui il y avait eu piège et manipulation. Pour l'avocat des parties civiles, Vincent Lurquin, justice a bien été rendue et cela aura valeur de précédent.
Ce qui est vraiment important ici, c'est qu'ils ont montré que notre démocratie, nos valeurs, étaient plus importantes que la haine qui était insufflée un peu pendant ce procès, la haine de M. Nemouche et de M. Bendrer. Donc je crois que c'est un jugement qui va s'inscrire dans l'histoire. C'est le premier également, ça a été rappelé, par rapport aux autres attentats qui vont arriver par après, parce qu'ils se connaissaient.
La théorie du loup solitaire n'a donc pas tenu. Plutôt un loup parmi les loups d'une meute bien plus importante appartenant à l'organisation djihadiste État islamique. Une vérité établie au terme de 9 semaines de procès au cours desquelles toute l'enquête a été refaite devant la cour d'assises. Reste encore à fixer les peines. Et là, pour les familles des victimes, un seul souhait exprimé par le frère de l'une d'elles, Alexandre Strens.
Je dirais que sans rentrer dans l'excès ni dans les extrêmes, que la peine soit de façon infiniment juste pour l'infiniment mal qu'ils nous ont fait et qu'ils font à toutes les victimes.
Peine dont le prononcé est attendu ce lundi.
En France, la condamnation du cardinal Barbarin. 6 mois de prison avec sursis. Reconnu coupable de ne pas avoir dénoncé les agressions pédophiles du père Prénat qui dépendait de son diocèse. Alors ça concerne des abus sur mineurs commis entre 2014 et 2015. Les autres faits antécédents à 2014 ont été prescrits. En fait, Mgr Barbarin avait certes pris soin d'alerter Rome, mais pas la justice française. Et c'est bien ce qui lui a été reproché, car ainsi il a empêché de mettre au jour de nombreux autres cas d'agressions sur mineurs au sein de l'Église. Pour l'avocat des victimes, maître Yves Sauvert, cette condamnation du cardinal est un soulagement aussi pour toutes les victimes qui n'ont pas pu venir témoigner au procès.
Les victimes n'auront plus peur. On ne peut pas toujours dire, parce qu'on a des gens importants, des gens puissants, ils vont passer et on ne leur demandera pas de compte.
6 mois de prison avec sursis donc. Selon l'un des avocats du cardinal Barbarin, c'est une justice française sous pression qui a été rendue. Quant au cardinal Barbarin, il a fait appel de cette décision de justice, même s'il tire déjà les conséquences de ce premier procès.
Je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours.
Voilà, déclaration laconique donc du cardinal Barbarin, condamné. Il souhaite donc remettre sa démission au pape dans les prochains jours. Au Canada, Sébastien Desrosiers, le Premier ministre Justin Trudeau est toujours en pleine tempête. Une deuxième ministre de son gouvernement a démissionné pour des raisons éthiques.
Il s'agit de la présidente du Conseil du Trésor, Jane Philpott, donc deuxième à démissionner. La première, c'était la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. Elle accuse donc le premier ministre et des membres de son entourage d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle laisse tomber une poursuite contre SNC-Lavalin. C'est une entreprise de génie de construction basée à Montréal qui est accusée de corruption, de fraude relativement à des contrats obtenus en Libye. Donc l'équipe de Justin Trudeau considérait fortement une entente hors cours, mais la ministre de la Justice ne voulait rien entendre. Alors elle aurait subi des pressions et après sa démission, le gouvernement déjà ébranlé doit encaisser le choc du départ d'un autre poids lourd, Jane Philpott. Dans une lettre, elle écrit qu'elle a perdu confiance, qu'il y a eu interférence politique du gouvernement dans ce dossier. Les partis d'opposition continuent de réclamer une enquête et dans certains cas, la démission du premier ministre.
Et comment a réagi Justin Trudeau?
Alors jeudi, il s'est adressé à la Nation. Il ne s'est pas excusé. Ce n'était pas de l'ingérence selon lui, mais une simple discussion. Écoutez le premier ministre.
Nous, on considérait que Mme Wilson-Raybould était toujours ouverte à considérer de nouveaux facteurs dans cette décision. Elle, comme on apprend maintenant, elle considérait qu'à chaque fois qu'on lui en parlait, c'était inapproprié. Mais pour moi et pour mon équipe, de continuer à parler d'un enjeu si important, ça fait partie de notre job.
Alors, deux versions d'une même histoire, à voir si ce sera suffisant pour calmer cette véritable tempête politique.
En Suisse, Joël Marchetti, on fait le point sur cette vaste affaire de piratage de mots de passe sur Internet.
Des adresses e-mail, des mots de passe accessibles à tous sur Internet depuis un mois. Des millions d'identifiants d'utilisateurs helvétiques ont été dérobés sur des années. Parmi les victimes, on trouve des ministres, des parlementaires, des membres de l'administration fédérale et même des cadres de l'armée, dont son chef, Philippe Rebord. Écoutez sa réaction.
Dans le cadre de nos activités, on sort des sites proprement dits de la Confédération pour des raisons professionnelles, sur les réseaux sociaux, peut-être pour réserver un hôtel et de choses comme ça. Moi, j'utilise jamais mon mot de passe professionnel. Alors, je pense qu'il faut prendre la chose au sérieux, puis qu'on va voir si on peut améliorer notre dispositif de sécurité. Nos adresses e-mail étant publiques, ce n'est pas une grande surprise, disons.
La centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information a également réagi en précisant qu'une grande partie des données concernées sont assez anciennes. Certaines adresses concernent même des personnes qui ne travaillent plus à la Confédération. Reste que la sécurité informatique est naturellement un enjeu majeur, y compris sur les mots de passe, comme nous l'expliquait le professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Jean-Pierre Hubeau.
Bon, les conseils très élémentaires, c'est l'hygiène en matière de mots de passe, mais ça, je pense maintenant les gens l'ont bien compris, c'est-à-dire d'utiliser des mots de passe qui sont distincts, d'avoir des mots de passe forts pour les sites web qui contiennent des données particulièrement sensibles ou embarrassantes, et puis utiliser éventuellement des gestionnaires de mots de passe, parce que finalement demander à un être humain de retenir par cœur 150 mots de passe différents, c'est quelque chose qui est tout à fait irréaliste. Donc il y a quelques solutions qui vont dans ce sens-là. Donc à court terme, on peut s'appuyer sur ces solutions-là, mais très clairement, ça ne suffira pas dans une société qui est complètement dans une phase de numérisation irréversible et profonde. Et donc, il y a un grand nombre de recherches en cours et d'outils qui existent d'ailleurs pour améliorer la situation.
Cette masse de mots de passe volés, 3 millions en Suisse sur un total de plus de 2 milliards dans le monde, est l'une des plus grandes effractions de données décelées à ce jour.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.